Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Mohamed Lamine Gassama, élu du 20e arrondissement, membre de l'équipe de Benjamin Griveaux, candidat à la mairie de Paris. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Barrière.
Alors, tout d'abord, un mot sur les Gilets jaunes qui ont manifesté samedi. Un rassemblement qui a été émaillé d'incidents en raison de la présence de Black Bloc, place d'Italie. Quel regard portez-vous sur ce premier anniversaire? Les Gilets jaunes ont beaucoup compté à Paris l'année dernière. Est-ce qu'il faut redouter de nouvelles manifestations chaque samedi?
Dans la mesure où il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de, comment dire, de hiérarchie, si j'ose dire, dans les Gilets jaunes, il n'y a pas d'organisation, on va dire, soit associatif ou voire même syndicale ou voire même politique, on peut s'attendre à tout. Ce mouvement est protéiforme. Il n'a pas de, on ne sait pas par quel biais on peut discuter avec lui, dans la mesure où chacun est finalement porte-parole de lui-même, et donc oui, il pose un problème en termes de dialogue. C'est un dialogue direct. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce mouvement dit des Gilets jaunes, c'est que sa nature a été finalement modifiée depuis les premiers ronds-points où les gens se sont réunis. Maintenant, on est alors, je fais le distinguo entre les Gilets jaunes, ceux qui sont encore sincères et qui veulent dire leur exaspération ou leur mal-être, et ceux qui s'infiltrent, c'est-à-dire les casseurs, les Black Blocs. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que une réponse a été donnée aux Gilets jaunes, en tout cas au mouvement des Gilets jaunes, ou en tout cas cette colère citoyenne qui est apparue il y a un an. Je rappelle que le gouvernement, avec le président Macron, a quand même mis sur la table presque 17 milliards d'euros. Ce n'est pas rien, même si j'entends encore dans les ronds-points, rien n'a été fait. C'est un petit peu injuste de dire cela. On est, il faut rappeler qu'on est dans un moment où le budget de la France est contraint. On ne peut pas sortir de l'argent comme ça. Et pourtant, ça a été, je pense, un signe fort politique de la part d'Emmanuel Macron. Voilà, pour vous dire après qu'est-ce qu'il en sera de ce mouvement-là. Je ne le regarde pas dans le marc de café.
Voilà. Alors, sans regarder dans le marc de café, il y a aussi un moment important qui nous attend tous, c'est le 5 décembre, une grève illimitée qui aura lieu dans les transports publics pour dénoncer la réforme des retraites. Vous attendez à une grève dure qui pourrait paralyser la capitale comme en 1995, une grève qui pourrait impacter finalement tous les habitants de la région Île-de-France.
A priori, ça va être un mouvement social qui va être important, bien sûr. J'ai dit les choses aussi assez clairement. Est-ce que le système dans lequel nous sommes de retraite est viable à long terme? Il me semble que non. Est-ce qu'il est juste? Il me semble que non. Donc, Jean-Paul Delevoye est en train de discuter avec les partenaires syndicaux, avec tous les partenaires sociaux. Il faut discuter, il faut échanger, il faut confronter les idées, mais in fine, il faut qu'on sorte du statu quo. Ce système de retraite, il faut le maintenir sur la répartition, sur justement cette solidarité entre les générations, mais il doit pouvoir évoluer.
Alors Mohamed Lamine Gassama, vous êtes un représentant de La République En Marche depuis longtemps, depuis la création de ce mouvement politique à Paris, et vous soutenez le candidat officiel de La République En Marche, puisqu'il y a un deuxième candidat, Cédric Villani, qui n'est pas investi par votre parti politique. Alors dans les sondages, Benjamin Griveaux arrive en deuxième position après Anne Hidalgo et devant Rachida Dati. On imagine que son score serait bien meilleur s'il n'y avait pas cet autre candidat de La République En Marche. Il n'a en tout cas aucune intention de renoncer à se présenter à la mairie de Paris. Je parle de Cédric Villani. Comment allez-vous gérer cette situation à l'approche du premier tour au mois de mars?
Ce qu'il faut dire, c'est que depuis que Benjamin Griveaux a été investi par la Commission nationale d'investiture, donc des instances légales et légitimes de notre mouvement, il n'a de cesse tendu la main, enfin elle a toujours tendu la main à Cédric Villani, à Granson. Mounir Majoubi l'a rejoint au mois d'août de façon très normale, c'est-à-dire que on fait partie d'un même mouvement, donc on travaille ensemble pour que y ait l'alternance en mars 2020. Donc il y a vraiment ce souci du rassemblement auprès de Benjamin Griveaux. Cédric Villani donc est dans une aventure disons-le personnelle, mais la porte est toujours ouverte. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, qui est comme on le dit médaille field, mais il y a eu un choix qui a été fait et sur des critères assez précis. J'en ai parlé la dernière fois avec vous. Benjamin Griveaux avait le meilleur projet quand il est passé devant la CNI, et c'est ça qui a été reconnu. Maintenant, comme on le dit, la porte est toujours ouverte. On la ferme pas.
Et sur le terrain, puisque vous êtes notamment un formateur au sein de La République En Marche, Mohamed Lamine Gassama, est-ce que les équipes qui accompagnent Benjamin Griveaux sont en nombre suffisant, ou bien il y en a beaucoup qui sont partis du côté de Cédric Villani? Comment ça se passe sur le terrain? Parce que une campagne électorale, c'est aussi des gens qui font du porte-à-porte, qui traquent.
Bien sûr. Il y a la grande majorité des marcheurs qui sont auprès de Benjamin Griveaux. Après, c'est sûr qu'il y en a qui sont partis avec Cédric Villani, mais comme je le répète, la grande majorité sont avec Benjamin, et on fait une campagne vraiment très très sérieuse, parce que l'enjeu capital, il est important. C'est de permettre l'alternance à Paris après presque 6 ans de gouvernance chaotique avec Anne Hidalgo et son équipe. Donc on peut pas jouer avec ça, on peut pas se permettre peut-être un ego personnel et une envie personnelle qui a été peut-être chagrinée au mois de juillet, mais voilà, l'important c'est que on puisse donner la possibilité aux Parisiens et aux Parisiennes de pouvoir avoir une nouvelle gouvernance.
Pour quelles raisons Benjamin Griveaux vous semble-t-il le meilleur candidat pour diriger Paris? Là, on ne parle plus de Cédric Villani, mais il va y avoir un choix pour les Parisiens, notamment Anne Hidalgo, Rachida Dati, et puis le candidat écologiste David Belliard.
Oui, tout à fait. Et je travaille avec Benjamin Griveaux depuis maintenant presque 2 ans sur le programme municipal que l'on veut proposer aux Parisiennes et aux Parisiens. C'est un programme crédible, un programme sérieux, et même en train de permettre aussi aux Parisiens de pouvoir voter sur des propositions via une plateforme en ligne qui est mise en place. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de marcheurs qui vont au contact des Parisiens pour justement échanger sur les propositions. On va parler tout à l'heure de la police municipale, etc., la propreté. Il y a un travail qui est fait, qui est sérieux. Il s'y prépare depuis maintenant un bon bout de temps. Et je le répète, il a été choisi parce que les personnes qui siègent au sein de la CNI ont vu cela, ont perçu cela. Et je pense que c'est celui qui a le plus de capacité au rassemblement. Il a rassemblé par exemple la maire du 9e, Delphine Burkly. Madame Calandra, maire du 20e, qui est venue aussi soutenir sa campagne. Donc, on voit bien que la dynamique est aussi autour de lui.
Vous attendez à d'autres ralliements? Je ne sais pas si vous aimez ce mot-là. Je pense à la maire du 5e arrondissement, Florence Berthoud, qui n'a pas encore fait son choix entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani. J'imagine que, vous avez beaucoup de contacts avec elle.
Tout ce qui permettra de donner de la force à cette campagne est le bienvenu. Bien sûr, une force crédible et une force, on va dire, positive, hein. Mais voilà, ce sont des personnalités importantes à Paris. Florence Berthoud a été donc la présidente du groupe LR au sein du Conseil de Paris. Elle l'a quitté pour des raisons qui sont liées à la trajectoire que prend ce parti. Bon, voilà. Moi, je vous dis, le rassemblement se fait autour de Benjamin Griveaux et je pense que ça va continuer.
Les chiffres des européennes, vous les avez toujours en tête quand vous faites campagne à Paris. On se rappelle effectivement que le Front National est arrivé en tête au plan national, mais à Paris, chaque arrondissement ou presque a voté en faveur de La République En Marche. Il y a eu quelques arrondissements qui ont choisi de voter pour les écologistes. Aujourd'hui, vous sentez une appétence, une envie d'un candidat à la République En Marche à Paris?
En tout cas, la sociologie parisienne est prête à cela. Ce qui se passe, c'est que bon, on va pas comparer deux élections qui sont totalement différentes. Les européennes, c'est une élection, on va dire, européenne et nationale. Et là, on est vraiment sur le quotidien des habitants. Et Benjamin Grimaud a mis l'accent sur justement le quotidien des Parisiens, sur les questions de voilà comment on gère la sécurité, comment on gère la question de la propreté. C'est vraiment travailler sur ce que les Parisiens vivent au jour le jour, heure par heure.
Parce que jusqu'à présent, Mohamed Lamine Gassama, il y avait des arrondissements de droite, des arrondissements de gauche. Là, on a vu aux européennes des arrondissements de gauche avaient choisi la République En Marche, mais aussi des arrondissements de droite.
Oui, parce que le clivage gauche-droite, comme il a été établi depuis presque 40 ans, voire même un peu plus en France, est... a disparu. Enfin, il est plus d'actualité. Et donc, c'est sûr qu'il y a des arrondissements, des habitants, des Parisiens qui se reconnaissent dans le discours déjà du président de la République, qui a justement été d'une certaine manière celui qui a un peu fait exploser tout cela et a donné une nouvelle méthode de gouvernance. Alors, c'est sûr qu'avec l'épreuve du pouvoir, les choses sont pas aussi simples que ça. Mais au moins, il a eu ce courage-là, il a pris son risque, et les Parisiens lui son gré de cela.
Alors Mohamed Lamine Gassama, Benjamin Griveaux a été parfois décrit comme une personne arrogante, trop liée aussi au gouvernement dont il a été le porte-parole. On lui a reproché son langage un peu cash au sujet de ses adversaires. Est-ce que son image auprès des Parisiens est en train de changer? Ce week-end, il a dit qu'il avait développé une relation charnelle avec les Parisiens.
Vous savez, quand on travaille avec lui, c'est vrai qu'il est exigeant. Vous savez, il veut être maire de Paris, et c'est pas une petite fonction. C'est maire de la capitale, maire d'une ville de 2,2 millions d'habitants, sans compter tous ceux qui passent à Paris, les touristes et autres personnes qui viennent à Paris. Mais quand vous aspirez à cette fonction-là, il faut quand même une certaine gravité dans l'approche que vous avez de cette fonction-là. Ensuite, c'est quelqu'un qui, alors, il est sympathique. Moi, je travaille avec lui sur les questions de propreté, et voilà, il challenge, il demande toujours plus. Il veut qu'on aille chercher vraiment des choses qui vont permettre aux Parisiens de vivre bien leur territoire.
Il s'est aperçu lui-même qu'il n'avait pas une bonne image auprès des Parisiens, et d'ailleurs, il parle un peu moins, on le voit un peu moins dans les médias. Il y a une stratégie pour changer un peu son image.
Vous savez, on a chacun, nos faiblesses, nos défauts, mais nos qualités. Et l'une des qualités que je vois chez Benjamin, c'est qu'il sait aussi se remettre en cause. Il sait douter, il doute, bien sûr, pour que toujours trouver la meilleure solution, et surtout aussi pouvoir justement apporter des réponses crédibles aux Parisiens qui attendent cela.
Alors vous qui êtes un élu de terrain, Mohamed Lamine Gassama, Anne Hidalgo est très critiquée sur les réseaux sociaux, tout le monde finalement veut prendre sa place, on l'accuse de beaucoup de choses, elle se plaint, elle parle de Anne Hidalgo bashing. Mais est-ce que finalement, ce sont les Parisiens qui votent? Est-ce que ce ne sont pas les habitants des autres villes qui critiquent Anne Hidalgo? Est-ce que finalement, les Parisiens, ils trouvent leur compte,
hein? Quand vous regardez le sondage dont vous avez parlé
en tout cas.
Elle est en tête, mais elle est en tête d'une courte tête, si j'ose dire. C'est 19%. Benjamin Griveaux est juste derrière à 18%. Et ça veut dire que plus de 60% des Parisiens ne veulent plus de Anne Hidalgo.
60% des Parisiens ne veulent pas de Benjamin Griveaux.
60% des Parisiens ne veulent pas que la maire sortante puisse renouveler son bail au niveau de la ville de Paris. Bertrand Delanoë, quand il était maire de Paris après son premier mandat, était à 45% d'intention de vote. C'est un désaveu cinglant que les Parisiens opposent à la maire sortante.
Mais quand vous parlez de gestion chaotique de Paris, à quoi faites-vous allusion en particulier? Est-ce que c'est la gouvernance? Est-ce que c'est les travaux? Est-ce que ce sont les embouteillages? Est-ce qu'on peut tout lui reprocher en bloc?
Je ne lui reproche pas tout en bloc. Il y a des choses qui ont été bien faites, mais il faut quand même constater que les travaux, la voirie parisienne, on n'a pas une lisibilité de cet espace public. On a un manque de lisibilité, un manque de perception de ce que cette mandature veut faire. Je prends un exemple. Le boulevard de Belleville, entre le 11e et le 20e. Il y a une réunion publique qui se tient avec l'adjoint Christophe Najewski, adjoint de Madame Hidalgo, en charge justement des déplacements et de la voirie. Depuis combien d'années on veut que ce boulevard puisse être réhabilité? Depuis des années. Et lors de cette réunion publique, l'adjoint au maire de Madame Hidalgo, Monsieur Najewski, en fait, fait capoter la réhabilitation du boulevard de Belleville parce que il n'a pas pris en compte l'ensemble des usages que ce boulevard devait proposer aux habitants. Il n'a pris qu'un seul bout. Et donc, du coup, on est resté sur le statu quo et ce boulevard de Belleville ne va pas être réhabilité. Et on peut en citer encore beaucoup de choses comme cela. Donc, quand on veut aspirer à donner un plus aux Parisiens, il faut en prendre en compte toutes les parties prenantes, ne pas ne prendre qu'une seule voie pour justement pouvoir apporter une solution crédible et efficace. C'est ça que on reproche à son équipe, à l'équipe de Anne Hidalgo, c'est que beaucoup de choses se font aussi beaucoup par la com, les intentions, mais quand il faut mettre en œuvre les choses, bah là ça devient un peu plus compliqué. Donc c'est tout un tas de non-décisions ou des décisions prises mais de façon tellement empirique que on n'y voit pas clair, qui font que à un moment donné les Parisiens et les Parisiennes sont déçus. Parce que c'est ça la question sur la propreté. 69% des Parisiens disent que ça va être un élément majeur de leur décision.
Mohamed Lamine Gassama, on parlera tout à l'heure de cette question de la propreté à Paris. Ce matin, Benjamin Griveaux a annoncé qu'il baisserait le budget destiné aux logements sociaux pour favoriser la création de logements intermédiaires. Pour quelles raisons ?
L'un des axes forts de la campagne de Benjamin Griveaux, c'est effectivement de faire en sorte que les classes moyennes restent à Paris. Parce que, je pense que vous le savez, 60 000 personnes quittent Paris. Il y a vraiment une hémorragie à Paris.
Avec des fermetures de classes notamment.
Le corollaire. Voilà. Et donc, notre volonté, notre envie, c'est que ces classes moyennes puissent rester à Paris. Parce que quand vous n'avez simplement que les riches, les très aisés, et finalement ceux qui sont les plus précaires dans une ville, en fait, vous avez une ville qui ne vit pas bien. Donc il faut que tout le monde puisse vivre à Paris, et donc il nous faut l'ensemble des CSP, comme on dit, à Paris.
Alors Yann Brossat a répondu ensuite à Benjamin Griveaux sur Twitter en affirmant que 40 000 logements sociaux ont été produits depuis 2014, dont un tiers pour les classes moyennes. Selon lui, il est malhonnête d'opposer logement social et classe moyenne. Comment vous réagissez à ces déclarations ?
Je ne réagis pas aux réactions de Yann Brossat. Je pense qu'il faudrait qu'il arrête de tuter, qu'il travaille réellement au fait que justement une partie de la population parisienne est partie. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas pris en compte. Je dirais même qu'ils ont, d'une certaine manière, et c'est un petit peu paradoxal pour des communistes, mais ils ont aussi été un peu les vecteurs de la spéculation à Paris, ce qui fait que le prix de l'achat à Paris est très élevé.
Mais quand vous dites qu'ils ont été les vecteurs, ils ont pourtant tenté de lutter contre la spéculation. Ils ont même encadré les loyers.
La loi Elan. La loi Elan de M. de Normandie. Ils ont, par exemple, acheté dans le diffus. Ce qui a fait que les propriétaires ont fait mécaniquement monter les prix de l'achat à Paris.
L'invité de Pluriel est Mohamed Lamine Gassama, élu à La République En Marche du 20e arrondissement, membre de l'équipe de Benjamin Griveaux, qui est candidat à la mairie de Paris. On se retrouve dans quelques instants.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de Mohamed Lamine Gassama, élu La République En Marche du 20e arrondissement, membre de l'équipe de Benjamin Griveaux, candidat à la mairie de Paris. Alors, on a parlé du logement tout à l'heure. Les étudiants ont été très choqués par l'immolation par le feu d'un jeune de 22 ans devant le Crous de Lyon. Est-ce que le futur maire de Paris aura un rôle particulier vis-à-vis de ces étudiants précaires qui ont les plus grandes difficultés à se loger et qui sont obligés de multiplier les petits boulots? On voit notamment les livreurs de type Deliveroo, Uber, qui sont souvent des étudiants.
Oui, oui, c'est un sujet qui est important. La ville de Paris, a et peut avoir une action vis-à-vis des étudiants, notamment en construisant des logements pour justement spécifiques aux étudiants. Ça, c'est un des leviers que la ville de Paris a en son sein. Donc, il faut continuer. C'est évident que quand vous étudiez, quand vous, par exemple, vous venez à Paris pour étudier, et que vos parents ne sont pas fortunés pour pouvoir vous aider, c'est difficile. Moi, je suis passé par là. Bon, moi, je suis un Parisien, mais je sais que j'ai dû, par exemple, passer par la voie de l'alternance pour pouvoir payer mes études. Et je trouve que c'était une bonne voie aussi, parce que ça m'a permis de faire des études assez longues et intéressantes. Donc voilà, aux étudiants, il faut leur donner le panel de ce qu'ils peuvent faire et les soutenir. Ça, c'est inconditionnel. On peut pas laisser la jeunesse parisienne et la jeunesse finalement française dans une situation où elle peut pas étudier dignement. Par contre, la récupération qui a été faite justement de ce tragique événement de Anas, il faut aussi dire les noms de cet étudiant, les récupérations qui ont été faites pour moi ne sont pas à la hauteur. Quand par exemple François Hollande a été empêché de pouvoir échanger avec au sujet de son autour de son livre, je trouve que ça c'est pas admissible. Et ça c'est souvent le fait de l'extrême gauche qui utilise tout, récupère tout pour pouvoir justement faire passer son message. Et ça c'est pas acceptable.
Alors, une police municipale a été mise en place par Anne Hidalgo. Elle y a été opposée pendant de nombreuses années. Alors, je vois tiquer. Benjamin Griveaux veut augmenter les effectifs de cette police. Il s'agira d'une police armée.
Alors, Anne Hidalgo n'a jamais voulu de cette police municipale en 2014. Hein. Elle a voulu la mettre en place que très récemment.
Avant les élections municipales.
Avant les élections municipales. Et surtout parce que La République En Marche avait mis cela au débat public. On avait fait une tribune et tout de suite derrière, Anne Hidalgo dit « je veux
une
police municipale ».
C'est plutôt bon
très
signe.
Bien. C'est très bien, mais le problème c'est que je le vois en interne, même si on me dit pas grand-chose maintenant, mais je le vois en interne. La police municipale qu'elle veut mettre en place, je ne vois pas encore sa couleur.
Et vous ne les avez pas vus dans votre arrondissement?
Pour l'instant, je travaille, parce que j'ai ma délégation est aussi liée à cela, je travaille avec ce qu'on appelle la direction de la prévention sécurité de Paris. C'est pas la police municipale. Pour l'instant, ils sont en train d'y travailler, mais je peux vous le dire que ça verra pas le jour d'ici mars 2020. Et effectivement, Benjamin Griveaux veut mettre en place une police municipale véritable, avec des moyens, effectivement armés, d'armes létales. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez le mot police dans le dos d'une personne, vous en faites quelqu'un qui est une sorte de cible pour des gens qui sont malveillants. D'accord ? Donc il faut lui permettre à cette personne de pouvoir se défendre. Et nous, en tant que responsable politique, on ne peut pas envoyer des gens dans l'espace public et que ces personnes ne puissent pas se défendre. C'est important. Ensuite, cette police municipale, c'est une police qui doit être de proximité. C'est-à-dire que ce sont des personnes, des hommes et des femmes, qui vont être au plus près des préoccupations des Parisiens, qui vont connaître les familles, qui vont connaître les commerçants, qui vont connaître les associations, ce que ne peuvent pas faire la police nationale à l'heure actuelle. D'accord ? Donc il va y avoir vraiment une complémentarité entre ces deux types de police qui n'auront pas les mêmes missions,
Une police qui travaillera 24 heures sur 24, puisque beaucoup des incidents se produisent la nuit.
Forcément que...
Parce que dans certaines villes, la police municipale s'arrête à 18 heures.
Il faut que, effectivement, cette police puisse être déployée le plus longtemps possible dans une journée.
On peut parler, par exemple, d'un quartier où qu'on a appelé la colline du crack. Mmh. Benjamin Griveaux, maire de Paris, va tenter de trouver des solutions pour que les riverains puissent vivre sans avoir peur.
Bah justement, la colline du crack, il y a beaucoup de choses qui se sont amalgamées autour de ce lieu. Et quand vous détectez qu'il y a une anomalie qui est en train de naître et que ces désagréments commencent à gonfler, il faut tout de suite y mettre un terme. Il ne faut pas laisser la chose s'amplifier. Et c'est ça que cette mandature n'a pas su faire. C'est aussi, par exemple, la même chose pour les camps de réfugiés ou de migrants qui se sont installés aussi, pareil, pas loin à la porte de la chapelle. Dès que vous détectez qu'il y a la misère humaine qui s'installe dans un endroit, il faut mettre tout de suite les moyens pour que ça ne se développe pas. Ça, c'est pour moi une des politiques qui va être importante après mars 2020 si on est amené à être à l'hôtel de ville.
Vous avez en tête notamment l'action qui a été menée à New York par l'ancien maire Rudolph Giuliani.
Le carreau cassé. Effectivement.
On explique ce que c'est.
Politique du carreau cassé, c'est que dès que vous avez vous détectez par exemple un tag ou un carreau cassé, il faut le réparer immédiatement. Il faut pas laisser la chose longtemps parce que
pas d'impunité même pour les petites incivilités.
Mais parce que en fait, vous travaillez sur, c'est presque de l'orfèvrerie. Si vous laissez de la malpropreté longtemps dans l'espace public, en fait, la malpropreté appelle la malpropreté. Et c'est aussi ça l'un des problèmes à Paris, c'est que parfois par exemple, les encombrants ne sont pas ramassés dès qu'il faut. Rapidement, et donc du coup les gens ils se disent ici là il y a un petit chantier, un petit encombrant, donc on peut en rajouter, et donc ça il faut l'éviter.
Alors justement, vous êtes en charge de la propreté à la mairie du 20e arrondissement, Mohamed Lamine Gassama, un sujet qui sera important dans le choix du candidat en mars 2020. On se souvient notamment de Geoffroy Boulard, le maire du 17e arrondissement, qui avait créé une application pour signaler les endroits où on trouvait des rats à Paris. Qu'est-ce que vous allez proposer aux Parisiens, là, si vous êtes élu en mars 2020? Toute cette équipe là autour de Benjamin Griveaux.
Alors je peux pas tout dévoiler parce que c'est pas encore.
Oui, vous déclinez le programme petit à petit.
Tout n'est pas acté et qu'il faut on est en train de travailler sérieusement dessus, mais il est évident que il faut que la propreté soit au bon niveau. Et ça aussi, c'est un débat qu'on a lancé dans le débat public, c'est que ce soit les mairies d'arrondissement qui soient décideurs opérationnels sur les questions de nettoiement.
C'est-à-dire qu'au au moment où on parle, c'est l'hôtel de ville.
Au moment où on parle, la mairie d'arrondissement n'est que coproductrice du nettoiement avec les divisions locales de propreté, mais qui hiérarchiquement sont liées à l'hôtel de ville. Donc il faut vraiment que la question de la propreté et du nettoiement soit au bon niveau, donc au niveau du maire ou de la maire d'arrondissement et de ses équipes. Ça permet une meilleure action et une meilleure réactivité sur le terrain. Le maire d'arrondissement est celui qui connaît toutes les rues. Le maire de Paris, on va pas lui demander de connaître toutes les rues du 20e.
Alors, il y a aussi la façon dont on travaille aussi dans ces services. Benjamin Griveaux a dit dans une interview au Figaro qu'il allait lutter notamment contre l'absentéisme dans ce service.
Oui, parce que et c'est pas faire injure aux agents. Moi, les agents, je les respecte énormément.
Je travaille
avec eux et là n'est pas de récriminer les agents. Au contraire, mais effectivement, force est de constater que au sein de la direction de la propreté et de l'eau, qui s'occupe de ça à la ville de Paris, on a un absentéisme qui est assez fort. Donc, il faudra trouver des moyens. Et on est en train de réfléchir là-dessus. On commence à dégager des pistes sérieuses pour que l'absentéisme baisse au sein de cette direction-là. Hein. Pour être très précis, au niveau de l'administration parisienne, vous avez un absentéisme général de 13% à peu près. au sein de la direction de la propriété de l'eau, c'est aux alentours de 20%.
Donc, vous avez une explication?
Il y a le fait que c'est un travail très dur, c'est clair. Il y a aussi le fait que le matériel utilisé n'est plus totalement adapté à l'évolution de la ville de Paris.
Benjamin Griveaux a évoqué notamment ces balais d'un ancien temps. Il veut qu'on modernise avec des aspirateurs ultramodernes.
Oui, oui. Non, mais vous savez, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que à un moment donné, il faut donner aux agents de la propreté les moyens pour nettoyer une ville comme Paris, 2 millions d'habitants, avec des moyens adéquats. À l'heure actuelle, on nettoie Paris comme du temps de Chirac et de Tibéri. À l'époque, les Parisiens sous Chirac utilisaient moins l'espace public que l'on fait à l'heure actuelle. Aussi, il y a 30% de l'espace public qui ont été rendus aux Parisiens, aux piétons. Donc tout ça engendre de la malpropreté, et donc il faut adapter l'organisation, les méthodes à une ville qui a muté, qui a évolué.
Alors tout à l'heure, vous nous parliez, Mohamed Lamine Gassama, de la politique du carreau cassé qui doit être réparé ou payé. Est-ce qu'il faudra être aussi un peu plus ferme vis-à-vis des personnes, d'ailleurs, qu'elles soient des...
Un civique.
Voilà, que ce soit des Parisiens, des touristes, des banlieusards qui traversent Paris, qui jettent leurs papiers n'importe où, par exemple. Est-ce qu'il faudra qu'il y ait des contraventions, des verbalisations?
Il y a une verbalisation de 68 euros à l'heure actuelle pour tout acte d'incivisme.
Ça, c'est la théorie.
Il y a des verbalisations, peut-être pas assez encore, et je pense que la police municipale va aussi pouvoir apporter une solution à cela. Mais je pense que 68 euros, c'est pas assez, effectivement. Et je pense qu'il faut un seuil psychologique de non-récidive.
Il faut aussi travailler davantage sur la prévention des messages, travail auprès des écoles. Je sais que vous le faites dans le 20e arrondissement, mais visiblement, ça ne suffit pas.
Non, mais quand vous travaillez dans les écoles, vous travaillez pour le long terme. C'est-à-dire que vous êtes auprès des futurs citoyens, et que moi, je pense que c'est le travail fondamental. Nos jeunes doivent grandir avec le civisme, comme à Tokyo, comme à Singapour, dans les villes où la propreté est, pour moi, quelque chose de sacré. Donc, il faut gagner cette bataille du civisme, et ça passe par plusieurs, effectivement, leviers, dont l'école.
Mohamed Lamine Gassama, la semaine dernière, notre invité était Amou Bouakaz, que vous connaissez bien,
puisqu'il
est élu dans le même arrondissement que vous. Oui. Et nous avons évoqué avec lui notamment la question du handicap à Paris. Mm-hmm. Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la vie des personnes handicapées à Paris?
Vous savez, la ville de Paris est une ville ancienne et qui a pas été pensée pour justement les personnes en situation de porteuse ou de handicap. Et donc il faut travailler sur l'environnement, d'accord? Et vous savez, c'est pas forcément dans le dur. C'est pas forcément dans la pierre, dans la voirie maintenant est plutôt bien adaptée, c'est pas trop ça qui mais je pense que les nouvelles technologies peuvent nous aider permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir bien se mouvoir.
C'est ce que nous disait justement Amou Bouakaz, je vois que vous êtes d'accord, notamment avec un smartphone, des applications qui peuvent être connectées à des points fixes dans Paris.
Je pense que même la question de, par exemple, pour les personnes qui sont aveugles, c'est plutôt bien avancé. Hein. Enfin, moi, quand je vois, j'ai un ami... champion paralympique, j'ai même pas besoin de le guider pour que c'est parfois lui qui me guide pour arriver d'un point A à un point B. Mais voilà, il faut que la personne en situation de handicap puisse maîtriser son environnement et pouvoir se mouvoir. Par exemple, il y a une règle aberrante au niveau de la RATP qui dit que quand vous rendez une station accessible, il faut que l'ensemble des stations soient aussi accessibles. C'est une règle qui me paraît finalement pas idoine. On peut rendre certaines stations, par exemple, accessibles, créer de l'intermodalité, une station, je sais pas, moi, Châtelet, j'en sais rien, et que, justement, la personne, par exemple, en fauteuil roulant, puisse aller du métro au bus de façon aisée.
Alors, il y a aussi la situation des élèves handicapés parisiens qui se sont retrouvés à la rentrée sans AVS, des personnes qui les aident dans leur scolarité. Dans le programme de Benjamin Griveaux, est-ce qu'il y aura un véritable accompagnement de ces enfants pour qu'ils puissent aller à l'école comme les autres enfants?
Forcément, la question, de l'accompagnement des jeunes en situation d'handicap, notamment psychique ou par exemple ceux qui sont porteurs qui sont autistes. Oui, ça va être une question qui sera dans le programme de Benjamin. Ça me paraît essentiel.
Alors, le 23 novembre aura lieu la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Le gouvernement fera des annonces. Quel doit être le rôle du futur maire de Paris pour protéger ces femmes victimes de violences conjugales? Parce que finalement, c'est toute la société qui doit lutter contre ces violences, pas seulement l'État.
Effectivement, ça ne peut être qu'une coproduction. Ça peut être le maire de Paris a, par exemple, dans ses prérogatives, la question par exemple du logement, par exemple trouver des logements pour ces femmes qui sont victimes de violences, d'avoir des centres d'hébergement spécifiques pour elles, par exemple Florence Berthoud l'a fait dans la mairie du 5e. Donc on peut être très innovant et surtout très réactif, parce que le problème dans ce genre de cas, c'est la réactivité et surtout après la détection. Parfois, on ne le voit pas. La personne souffre, elle vit cette violence-là, mais on ne le voit pas. Donc, il faut vraiment pouvoir mettre en place des politiques publiques avec des associations, avec justement la région, l'État, pour pouvoir réagir rapidement pour que la personne ne puisse pas endurer cette souffrance trop longtemps.
Alors, est-ce qu'on peut aussi améliorer à Paris l'accès à la culture? Je pense par exemple au conservatoire. Ouais. Les enfants sont tirés au sort, je crois,
tout à fait.
Pour pouvoir apprendre un instrument de musique. Je pense aussi aux bibliothèques qui ferment au moment où les Parisiens sont disponibles. Oui. Les étudiants aimeraient par exemple aller à la bibliothèque le soir ou même le dimanche. Ça se fait dans des grandes villes.
Oui, ça se fait et c'est une discussion qu'on doit avoir avec le personnel. Hein. On peut pas claquer des doigts en disant on va ouvrir toutes les structures le soir ou le dimanche. Ce sont des discussions qu'on doit avoir avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire que il faut discuter avec les syndicats, il faut discuter avec pourquoi pas des associations qui peuvent par exemple être présentes lors de ces ouvertures le dimanche ou en soirée. Il faut mettre toutes les cartes sur table, mais moi je plaide pour que la culture soit accessible le plus longtemps possible et au plus grand nombre possible.
Alors quand on regarde les sondages, on voit quatre blocs se dessiner. Un bloc de gauche autour d'Anne Hidalgo, La République en marche, la droite avec Rachida Dati et les écologistes. Oui. Si vous n'aviez pas la majorité au deuxième tour, vous pourriez faire alliance ou avec Rachida Dati ou avec les écologistes?
Alors là, pour l'instant, c'est pas à moi de dire ça. Là, vous allez pas me piéger là-dessus. C'est déjà arrivons au premier tour, qu'on voit les équilibres, qu'on voit les rapports de force, et ensuite le second tour donnera, répondra à votre question.
Alors, pour terminer, une question peut-être plus ouverte. Qu'est-ce qui fera la différence pour les Parisiens lors du premier tour des élections municipales?
Les Parisiens veulent que leur quotidien soit le plus apaisé possible. C'est vraiment, je pense, le plus important. C'est-à-dire que il faut qu'on leur apporte des solutions concrètes pour que, quand je sors de chez moi, je vois que la rue est propre. Quand je sors de chez moi, je sens que je suis en sécurité et que je puisse donner une place en crèche à mon enfant. Enfin voilà, c'est ça que je pense qui est pour moi le plus important dans cette campagne-là. Parler aux Parisiens, pas simplement de grandes phrases ou des grandes communications, vraiment être au plus près de leurs préoccupations. C'est ce qui a manqué pendant cette mandature et c'est ce que l'on a envie de présenter et de proposer, et c'est ce qu'on est en train de travailler.
Merci Mohamed Lamine Gassama. Je rappelle que vous êtes élu La République en marche du 20e arrondissement et membre de l'équipe de campagne de Benjamin Griveaux, candidat à la mairie de Paris. Bonsoir.
Merci Loïc et bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.